L'antenne de Fréquence Mistral Avignon est une antenne de transition écologique, mettant au cœur de sa dynamique les luttes environnementales. Et la transition écologique ne commence-t-elle pas par le fait de prendre en compte tous les êtres vivants? Alors aujourd'hui, lumière sur un sujet encore peu connu, la communication animale. Pour cela, j'ai fait appel à Léa Bidondo, 27 ans, conseillère en bien-être animal et éducatrice canine. Léa vit à Sorgues, à 15 minutes d'Avignon, et est pratiquante en communication animale au sein de son travail. La communication animale consiste à se connecter à l'âme d'un animal. C'est une connexion dite télépathique qui permet de communiquer avec les animaux et la transmission d'informations entre deux consciences grâce à, par exemple, des images, des odeurs, des bruits, des ressentis physiques ou des sensations émotionnelles. Les recherches en éthologie nous montrent bien que les poissons ressentent autant la douleur que les autres animaux, du fait de leur système nerveux et nerfs sensitifs, ou encore que les chiens pensent de manière sensorielle et sont capables d'imaginer et de penser avec des images, au même titre que nous. Rencontre avec un métier qui s'inscrit résolument dans les dynamiques écologiques et qui apporterait une dimension essentielle à notre transition environnementale. Entendre que l'animal avec un grand A a une conscience et que les animaux sont des êtres vivants, au même titre que n'importe quel être humain. J'ai donc effectué mes recherches de pratiquants et pratiquantes en communication animale et ai choisi la personne qui avait les meilleures notes et les meilleurs témoignages. Je suis donc tombée sur l'entreprise de Léa, Vos animaux et moi, présentation.
Alors je suis Léa, je suis actuellement à Sorgues, je suis donc éducatrice canin. Je travaille donc avec les animaux, mais tous les animaux, donc je fais de l'éducation positive avec les chiens. J'ai une colonie de vacances pour chiens. Je propose aussi des visites à domicile chez les gens pour tout ce qui est les chevaux, les chats, les oiseaux, tous les animaux que je peux pas garder à mon domicile. Et en plus de ça, je propose tout ce qui est le bien-être animal. Donc ça va être du soin énergétique et de la communication animale. Ces deux services, ils vont vraiment s'orienter pour tous les animaux. Donc ça marche du poisson au chat, au chien, au cheval, à la tortue, tous les animaux.
Quel est le parcours professionnel qui t'a amené à ce métier ?
Je suis passionnée des animaux et je ne savais pas vers quelle branche m'orienter. Il y avait beaucoup de métiers, mais il n'y en avait aucun dans lequel je me reconnaissais. J'avais commencé à me renseigner pour l'éducation canine et puis je voyais les colliers étrangleurs, les colliers électriques. C'était hyper brut sur les animaux. Du coup, je me suis dit, en fait, c'est pas pour moi. Après, j'ai vu comportementaliste, on m'a tout de suite descendu en disant « Ah ben non, faut des années d'études, c'est hyper compliqué. » Donc j'ai dit « Bon, ben non, c'est pas pour moi. » Vétérinaire, non plus. C'est vrai que je me vois pas enfermée entre quatre murs, faire des piqûres. Bon, c'est pas le lien que moi, personnellement, j'aime avec les animaux. J'aime pas le toilettage. Enfin, franchement, je savais pas quoi faire. Et du coup, le hasard a fait que j'ai travaillé dans un refuge de chiens. Dans une SPA, et ça m'a vraiment remis dans le bain et je me suis vraiment dit non mais enfin faut vraiment que j'arrive à trouver un truc là-dedans qui me plaît, qui m'épanouit. Et les années ont passé quand même, et puis il y a eu des nouvelles techniques d'éducation qui ont été inventées par les chiens, en tout cas qui sont revenues au goût du jour, j'ai envie de dire, et là je me suis plus reconnue. Donc du coup j'ai refait des formations pour devenir éducatrice. Vu que j'avais fait un lycée professionnel, j'avais appris quand même beaucoup de choses sur le comportement. Je me suis en plus fait des petites formations à côté, donc du coup je suis devenue comportementaliste, donc finalement c'était pas non plus le bout du monde. Puis après j'ai aussi évolué personnellement, et je me suis rendu compte que il y avait plein de choses qui pouvaient m'aider, mais un peu dans le domaine spirituel on va dire, et je me suis rendu compte que les animaux étaient hyper sensibles à ça. Donc j'ai essayé d'orienter encore une fois mon chemin vers les animaux en mettant en accord avec ce côté spirituel, et j'ai découvert la communication animale. La première formation que j'ai faite, c'était à Montpellier avec Leila Del Monte. C'est vraiment une femme qui est très connue dans ce milieu-là. Elle est américaine, elle travaille en Espagne, en France, elle fait des choses formidables avec les animaux. C'est elle qui m'a appris à le faire en premier temps. Après, étant donné qu'elle est très occupée, j'ai eu du mal à avoir du suivi avec elle et à pousser l'évolution. Et en revanche, j'ai trouvé l'association Kala. C'est Camille qui s'en occupe et elle fait aussi donc des stages pour de la communication animale. Et avec elle, on a vraiment un suivi. Donc j'ai fait le même processus, hein. Ça marche pareil. Chacun après a plus ou moins ses méthodes ou son chemin pour y arriver. Mais c'est exactement la même chose. Et avec elle, j'ai vraiment pu avoir un suivi. Donc elle m'a, voilà, elle m'a aidée à évoluer. Quand j'ai des questions, je peux lui poser. Enfin voilà, c'est vraiment plus convivial en fait. Et là, ça a été vraiment l'apothéose, quoi. C'est voilà, c'est pas, j'apprends pas à lire leur comportement, leurs réflexes ou quoi que ce soit. C'est vraiment un échange, quoi. Donc, on est bien d'accord qu'ils parlent pas, je parle pas avec eux, mais on a un échange vraiment intuitif et ça fait toute la différence.
Oui, c'est de l'ordre de l'invisible, du subtil, mais pourtant c'est bien là, c'est des énergies, quoi, c'est des échanges d'énergie, quoi.
Tout à fait, en fait, c'est comme si on avait une radio et avec plusieurs fréquences, et que cette fréquence-là, celle des animaux, ben en fait, elle est tout le temps autour de nous, mais c'est vrai qu'on n'apprend pas forcément à se connecter avec. Et j'ai appris à le faire. Il y a des personnes pour qui c'est inné, mais on peut tous apprendre à le faire. Et une fois qu'on apprend à se connecter, ben sur cette fréquence, on reçoit des informations. Chaque personne va recevoir des informations un peu différentes. Ça dépend les sens aussi qu'on utilise dans notre quotidien. Il y a des personnes, ça va être beaucoup des bruits. D'autres, ça va être des odeurs. Moi, c'est beaucoup de la visualisation et les sentiments, en fait. Je ressens un peu l'état émotionnel de l'animal. Donc, chacun a un sens qui va lui être propre. Le but, c'est d'apprendre à tous les développer. Et grâce à ces sens, eh ben, on va avoir des informations sur l'animal. Il va nous envoyer voilà, des images de sa maison, des endroits où il aime bien aller se promener. Il va nous envoyer des sensations. Est-ce qu'il est heureux, stressé, angoissé, content? Il peut y avoir des bruits. Par exemple, s'il habite à côté d'une église, il peut nous envoyer les bruits de la cloche. Les odeurs, voilà, l'odeur des fleurs, de ce qu'il aime bien, enfin... tous ces sens, en fait, nous permettent de recevoir donc ces informations. Et c'est surtout pas une interprétation qu'on fait, mais c'est vraiment, on transmet telles quelles les informations. Des fois, ça n'a pas de sens pour nous, mais ça en aura pour et l'animal et le propriétaire.
Quel est ton rapport aux animaux ?
Ben, c'est vrai que depuis toute petite, quand même, j'ai ce... Enfin, je pense comme toutes les personnes qui travaillent avec les animaux, ils ont tous des récits en disant, ben voilà, depuis que je suis enfant, je suis avec les animaux. Et ben moi, c'était pareil, hein, ça a commencé comme ça, c'était mes meilleurs amis. Dès que mes parents m'emmenaient voir des amis, parce que j'étais contente juste d'aller voir les chiens de ses amis, et plus que mes amis. Enfin, voilà, j'ai toujours aimé être entourée par eux, j'ai toujours eu l'impression d'être comprise, mais j'avoue que moi-même, je ne les comprenais pas forcément. Et quand j'ai découvert un peu par hasard voilà, la communication, comment ça fonctionnait, ce que ça pouvait déboucher, comment on pouvait aider les animaux comme ça, ben, c'est vrai que là je me suis orientée, j'ai appris, je me suis entraînée, c'est surtout l'entraînement.
Te souviens-tu du premier animal avec lequel tu as testé la communication animale ?
Alors le premier animal avec qui j'ai testé, c'était pendant une formation justement, et c'était sur un animal qui allait très bien, donc c'était un échange vraiment cool et positif, où du coup il me montrait la plage, les bâtons, qu'il adorait aller se promener, il m'avait donné le goût de friandises, donc du coup il me partageait vraiment trop sa bonne vie, tout ce qu'il kiffait en fait, donc c'était vraiment un échange cool à avoir.
Y a-t-il parfois certains échanges avec les animaux moins joyeux que d'autres ?
Oui, c'est vrai que du coup un échange peut être très triste ou angoissant. Après c'est vraiment pas mon émotion à moi, mais c'est vrai que des fois selon les histoires des animaux ça peut quand même me toucher ou faire écho à quelque chose que j'ai vécu. Donc selon l'animal c'est vrai que ça peut être soit très marrant, soit très triste. Ça va vraiment dépendre ben voilà, de ce que l'animal a besoin d'échanger avec moi et qui a besoin que je le dise à son propriétaire. Des fois aussi c'est un peu délicat, j'ai des choses ben voilà, que je dois annoncer au propriétaire et c'est délicat à dire. Par exemple pour un animal aussi disparu, des fois il y a des animaux qui ne veulent pas revenir. Alors du coup quand je me retrouve avec ça, ben, je ne sais pas trop quoi dire au propriétaire quoi.
Est-ce que tu as déjà rencontré des cas de communication animale où tu n'arrivais pas à rentrer en contact avec l'animal ?
Pour moi, c'est difficile de savoir quand un animal est mort parce que il continue à émettre quand même des messages. Et pour moi, personnellement, j'avoue que j'ai encore du mal à faire la différence entre savoir est-ce que c'est des informations qui sont encore actuelles ou si c'est vraiment ce qu'il en reste, on va dire.
Les mémoires.
Voilà, les mémoires encore ici que j'arrive à capter. Après, on peut aussi communiquer avec les animaux décédés. C'est pas quelque chose que moi j'ai cherché à faire.
J'ai vu sur ton site que tu proposais également des balades quotidiennes pour les chiens.
Tous les jours en fait. Bah, vu que j'ai une moyenne de 5 chiens à la maison que les clients me déposent, bah, du coup tous les jours on part en balade, comme ça on passe un bon moment, ça les défoule. Voilà, on va un coup se baigner, un coup dans l'herbe. J'organise tous les samedis matins des promenades et cours collectifs en fait, c'est un mix que je fais. Parce que c'est vrai que les cours collectifs sur un terrain, en fait, c'est chiant pour tout le monde. Du coup, moi, ce que je kiffe, c'est quand même aller me promener et voir les chiens courir dans la nature. Donc, du coup, on fait vraiment un format, ben voilà, balade. On s'arrête, on fait des petits exercices, du rappel, du pas bouger, du assis, etc. Ça dure, voilà, 5 minutes l'exercice. Et après, hop, on repart se promener, on se réarrête. Enfin, voilà, c'est le but, c'est que tout le monde s'amuse, en fait, et qu'on apprenne ludiquement. Donc, ma maison est remplie d'animaux.
Qu'est-ce que ça fait d'avoir la responsabilité chaque jour de garder jusqu'à 5, 6 chiens de propriétaires différents ?
J'ai pas tant l'impression parce qu'en fait, les animaux, ils se comportent vachement différemment selon avec qui ils sont. Je suis pas quelqu'un d'autoritaire en fait, hein, mais c'est vrai que du coup, bah, j'ai appris à lire leur comportement, donc je sais aussi les anticiper. Donc je pense qu'eux-mêmes aussi, des fois, ils disent « mais putain, elle lit dans mes pensées, c'est... » Je vois leur idée émerger et du coup je sais les stopper au bon moment. Mais non, en fait, le fait d'être sans leur propriétaire, du coup je suis vraiment leur référente. Et quand on va se promener, la plupart je les lâche en liberté. Et du coup, vu qu'ils savent pas trop où ils sont, ils se réfèrent vachement à moi. Donc, et puis l'effet meute, c'est vachement plus simple en fait. Parce que du coup, il suffit qu'il y en ait un qui a un bon rappel et du coup ils reviennent tous quand je rappelle.
Fais-tu de la communication animale avec les animaux que tu gardes en balade au quotidien ?
Non, je fais pas de communication pour les animaux de la pension, en tout cas pas sans l'accord des propriétaires et pas si eux-mêmes en ressentent le besoin. Parce qu'en fait, si je m'engage à faire une communication avec un animal qui me donne des informations ou une problématique et que je prends l'initiative d'en parler au propriétaire, peut-être que déjà celui-ci sera pas content que j'ai fait ça parce que ça a un lien quand même avec l'intime. Hein. Je peux avoir vraiment des informations très personnelles sur les humains, donc c'est vrai que du coup, ouais, je demande toujours l'accord des humains pour faire la communication parce que voilà, si l'animal me dit voilà, j'ai ce problème, j'aimerais qu'on m'aide à régler ça et que je l'aide pas, en fait, il me fera plus confiance. Donc c'est comme une personne, voilà, on va dire ah, je suis là pour t'écouter, pour t'aider, tu peux te confier à moi. Il me dit tout et après il se passe plus rien. Donc la prochaine fois, il voudra plus communiquer avec moi certainement.
C'est une forme d'abandon quoi.
Ouais, ou de trahison, enfin ouais, voilà. Ça. Moi le but c'est que vraiment ils aient confiance en moi. Par contre, après, c'est vrai qu'on n'a pas besoin forcément de rentrer en communication pour en avoir une. Enfin, faut savoir qu'ils sont vachement sensibles à toutes les émotions qu'on a. Et moi, quand je suis avec eux, je suis sûre de moi, je suis de bonne humeur. Et du coup, j'essaye de leur transmettre ça pour que eux aussi ils le soient. Et vu que je suis sûre, en général, j'ai pas de problème.
J'ai demandé à Léa si son rapport à la consommation de viande avait changé avec le métier qu'elle faisait.
Tu vois, je suis née à Bayonne, donc j'ai été élevée avec le jambon de Bayonne, tu vois. Et au goûter, sandwich au jambon, enfin, tu vois, j'allais à l'internat, je ramenais mon saucisson. Enfin, franchement, j'adorerais ça, tu vois. Et après, j'ai décidé d'arrêter. Mais c'est con, hein, mais la communication, hein. Quand les animaux, ils ont commencé à me parler, je me suis dit, mais putain, et moi, je les bouffe, quoi. Enfin, c'est comme si je bouffais mon voisin, tu vois. Enfin, on parle, on a un échange, enfin, c'est quelqu'un... C'est con, mais quand t'as pas d'informations, tu te dis, il est vivant, mais pas vraiment, tu vois. Enfin... Et quand t'as vraiment un échange, tu te dis « Ah oui, mais en fait, c'est pas possible, quoi. » Je me vois pas parler à une vache et puis après, deux secondes après, bouffer son petit, tu vois. Enfin, travailler, je suis pas végane, tu vois. Après, je fais attention, mais tu vois, ça me dérange pas de manger un œuf parce que je me dis, dans tous les cas, la poule, elle le fait, l'œuf. Mais bien sûr, je fais attention de où j'achète mon œuf, tu vois, voilà. Le lait, non, c'est clair que c'est pas possible. Par contre, les pulls en laine, tu vois, ça m'embête pas trop, tu vois. Enfin, voilà, parce que je sais que le mouton, dans tous les cas, il fait pousser sa laine. Et du moment qu'il est dans sa prairie... je préfère qu'il soit là que dans un jardin d'un particulier qui se dit « Ah, je vais lui sauver la vie, tu vois. » Ça veut pas dire qu'ils vont le tuer au bout de 3 ans, tu vois. Mais voilà, des fois, après, même grâce à la communication aussi, j'ai aussi appris à prendre du recul et à me dire, y a des animaux, ils ont leur place et ils savent pourquoi ils sont là. Et c'est eux qui ont choisi aussi d'être là. Ouais. Bah, c'est accepter la nature, mais c'est clair que le but, c'est pas de, comme ils font, voilà, de tout faire en gros, de tout enfermer les poules dans des cages, dans des... Non, tu vois, si le but c'est qu'elle soit en plein air, évidemment, tu vois. Mais une poule, ça fera toujours des œufs, quoi qu'il arrive, hein, tu vois, à moins qu'elle soit une poule vraiment stressée, mais.
La communication animale rejoint une règle indiscutable pour toutes les interactions sociales, qu'il s'agisse d'humains ou d'animaux, c'est le consentement. Le chien est un être sensible, désireux de vivre une existence satisfaisant ses besoins au même titre que les êtres humains, dont celui de tranquillité. Et il y a vraiment des comportements à oublier, comme par exemple se pencher vers la tête du chien pour lui parler directement, tout de suite vouloir lui toucher la tête, etc. Et si on s'accroupissait pour se mettre à sa hauteur, sans intimider l'animal? Et si on lui faisait d'abord sentir sa main, paume ouverte, avec humilité? Cet ensemble de signaux, appelé « échelle de l'agression », est le fruit des travaux de Kendall Shepherd, une vétérinaire comportementaliste britannique et autrice spécialiste de l'agression canine. Après des décennies à envisager le chien comme devant être soumis aux ordres des humains, ses besoins en tant qu'individu et selon sa race sont enfin pris en compte pour vivre harmonieusement ensemble. Le chien ne nous doit rien. À nous de faire l'effort d'observer les signaux communiqués par les chiens et d'adapter notre comportement en fonction d'eux et pas l'inverse.
Tout à l'heure, je parlais du consentement pour les maîtres, pour faire une communication, mais il y a aussi le consentement pour les animaux. Déjà, pendant la communication, c'est vrai que je demande toujours l'accord de l'animal, mais on n'a pas besoin de faire de la communication pour demander l'accord à un animal, par exemple d'être touché, d'être manipulé, quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais quand on voit un chien tout mignon dans la rue, on se jette dessus en se disant « Ah, je vais le caresser », etc. Mais en fait, peut-être que lui, il n'a pas du tout envie. Il y a des chiens qui sont hyper craintifs. Il y en a qui peuvent être voire agressifs. Mais même sans ça, juste, nous, on n'aimerait pas forcément que tout le monde vienne nous caresser la tête dès qu'on nous trouve gentil ou mignon, quoi. Donc, c'est vrai qu'il faut respecter, en fait, prendre un peu du recul. Moi, c'est vrai qu'il y a plein d'animaux que je crois, j'ai envie de les toucher. Mais avant ça, je m'arrête net et puis je me dis, en fait, non, peut-être que lui, il n'a pas envie et j'attends que lui vienne. Et des fois, ça arrive qu'il ne vienne pas. Donc voilà, c'est tout. Je respecte leur choix.
Léa a fait le choix d'être un peu plus éloignée du centre d'Avignon, car balader des chiens en intramuros n'est pas une mince affaire. En France, le ratio est de 1 chien pour 9 habitants et habitantes, ce qui nous donne pour nos 16 000 avignonnais et avignonnaises intramuros près de 2 000 chiens. Et pourtant, on ne compte malheureusement aucun parc à chiens en intramuros. Pas même le célèbre et très grand Jardin des Dons, tout simplement parce que la ville d'Avignon est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et que chaque recoin de la ville est une merveille à découvrir, mais pas toujours pour la truffe de nos animaux. Pour promener ces bêtes à poil, il faut donc se rendre au parc Chico Mendes, à 40 minutes à pied du centre d'Avignon et à 10 minutes en voiture pour les personnes véhiculées, ce qui n'est pas toujours pratique lorsqu'il faut promener son chien 3 à 4 fois par jour. Beaucoup de personnes se retrouvent donc à promener régulièrement leur chien aux abords des remparts entourés d'herbes, ce qui crée un réel problème de déjection canine au quotidien, qui, je le rappelle, ne sert absolument pas d'engrais à la terre, ou bien sur l'île de la Barthelasse, mais il n'est pas autorisé de lâcher son chien. En intramuros, on ne compte également qu'une seule vétérinaire. J'ai demandé à Léa ce qu'elle pensait de tout ça.
C'est vrai que du coup, je me suis installée à Sorgues, donc c'est quand même un quart d'heure d'Avignon, donc c'est vraiment à côté. Sauf que Sorgues, on a quand même la nature à proximité, c'est-à-dire que je passe mon portail et j'ai quand même soit des champs, soit des petits bouts de forêt, soit le bord de la Sorgues. Contrairement à Avignon, c'est vrai, où comme on disait tout à l'heure, on est obligé de prendre la voiture pour aller direct trouver un petit lopin naturel. Donc c'est vrai que Sorgues, ça me correspond quand même pas mal. Après, c'est vrai que je traîne pas du tout en centre-ville là-bas, mais par contre, la nature là-bas, c'est vraiment le top. J'ai plein de spots en fait pour aller promener les chiens, donc c'est trop cool. Vraiment, on part tous ensemble là avec ma dizaine de chiens, et puis voilà, je peux les lâcher en liberté, j'ai pas de soucis quoi. Beaucoup de personnes vont à la Barthelasse du coup, et à la Barthelasse, il n'y a même pas le droit de lâcher son chien. Du coup, les gens ils vont un peu plus loin, je crois, dans les champs, mais franchement, c'est pas le top. J'en connais beaucoup qui font le tour des remparts. C'est vrai que c'est cool, il y a un peu d'herbe, mais bon, ça reste quand même un peu dangereux parce qu'il y a les voitures à côté, si on a son chien, s'il y en a un qui arrive de l'autre côté de la route, non, c'est vrai que c'est pas le top. Ouais, c'est la même chose, quoi. C'est tout droit, il y a 3 arbres et puis voilà, quoi.
Comment se déroule une communication animale ?
Donc, quand une personne me demande de faire une communication avec son animal, je demande donc une photo, l'âge de l'animal, son prénom et le nom des humains avec qui il vit. Moi, je préfère faire ça à distance. Il y a des personnes qui le font en direct, mais c'est vrai que je me vois pas méditer sur un coin du canapé avec les deux qui me regardent, tu vois. Donc, je le fais à distance. Moi, ça marche avec la méditation. Quand je dis moi, c'est parce que moi, j'ai besoin de faire vraiment un moment de méditation. Il y a des personnes qui vont le faire les yeux ouverts, qui vont juste prendre leur carnet, qui vont mettre des notes dessus, comme ça. Mais moi, j'ai besoin d'avoir ce moment-là où je suis toute seule, dans le calme, avec la photo de l'animal. Je note les questions que veulent me poser les personnes, parce que soit ils peuvent me demander des questions que je pose à l'animal, soit leur faire passer une information. Ça peut être la venue d'un heureux événement, la venue d'un nouvel animal, un déménagement, une visite chez le vétérinaire. Toute info qu'on a besoin de faire passer à l'animal, ils peuvent passer par moi pour leur transmettre. Donc une fois que j'ai donc la photo de l'animal afin de bien l'identifier, son prénom, son âge et le nom des personnes, ainsi que les questions ou le message qu'on veut faire passer, je commence donc ma méditation. En général, l'échange il dure une demi-heure. Dans un premier temps, ça va être vraiment comme si je regardais une télé en fait et que ça faisait que zapper. Donc c'est-à-dire que j'ai plein d'informations différentes. Un coup, la télé, elle va m'envoyer des images. Un coup, elle va m'envoyer des sons. Un coup, je vais me retrouver dans un état un peu... Je vais avoir des sensations. Et des fois, ça va très vite. Des fois, c'est très lent. Ça dépend vraiment de l'animal. Par exemple, souvent, quand je fais avec des Jack Russell, c'est à fond la caisse, quoi. Enfin, c'est marrant, ça correspond vraiment à leur état d'esprit. Et du coup, je vois plein de trucs. Et je suis là, mais attends, laisse-moi faire le tri. Donc en fait le but c'est que moi je retienne tout ce que je vois ou que j'entends ou que je ressens et après j'écris sur mon carnet. Donc des fois je repars dans ma méditation pour rechercher d'autres informations, des fois j'ai pas besoin, ça dépend vraiment de l'échange que je fais. Les questions par exemple que l'humain me pose, moi je le pose tel quel dans ma tête, hein, c'est-à-dire que je pose la question à l'animal tout simplement. Quand je commence la communication, en fait, je visualise vraiment l'animal et il vient se présenter à moi. Souvent, il se présente à moi comme si c'était dans la vraie vie. Comme je l'avais précisé, par exemple, un animal qui est craintif, il va pas être hyper content de me voir. Enfin, il va rester craintif en fait pendant la communication. Et après, moi, je vais essayer de lui faire comprendre que je suis là dans le bon sens du terme. Enfin, je suis là positivement, quoi. Et si c'est un animal qui est surexcité, il va être surexcité. Enfin, normalement, ça correspond vraiment à leur état d'esprit. Et une fois que je rencontre l'animal, c'est là où voilà, les infos vont commencer à arriver.
Donc du coup, tu as rencontré ma chienne Ravioli à travers une méditation.
Oui.
J'avais posé plusieurs questions en amont. Et donc, on va débriefer ensemble. Donc, tu m'as renvoyé un mail hier qui disait « Voici le résultat de la communication ».
Intriguée par cette méthode de lien à l'animal, afin d'aller plus loin, j'ai demandé à Léa de pratiquer une séance de communication animale sur ma propre chienne. Ma chienne est une petite Shiba Inu de 2 ans, prénommée Ravioli. Pour ma part, en tant que maître, je me suis déjà dit qu'il ne manquait plus que la parole à mes animaux de compagnie, et je me suis déjà demandé nombre de fois ce qu'ils avaient en tête. Avec Léa, nos échanges se font par mail. Sur sa demande, je lui envoie quelques photos de Ravioli, certaines où l'on voyait précisément son regard, et d'autres où l'on voyait bien l'entièreté de son corps. Le but n'est pas d'influencer Léa et de lui fournir des informations sur ma chienne, mais bien de lui poser des questions, de donner son âge, son prénom, et de fournir des photos. Réponse par mail quelques jours plus tard, où Léa me parle avec précision du caractère de Ravioli sans même l'avoir rencontré. M'indique de façon troublante certains aspects de ma maison, de mes habitudes et de celles de ma chienne, des détails, des couleurs, des jouets. Elle réussit à répondre à mes questions et me traduit des aspects du caractère de ma chienne que je sentais sans arriver à l'expliquer. Un regard qui se pose pour venir prendre confiance en ses ressentis, les confirmer ou non, et ouvrir de nouvelles pistes de compréhension avec son animal. Pouvoir l'accompagner dans les événements de la vie, un déménagement, une rupture, un changement d'alimentation, qui affectent nos animaux au même titre que nous. J'ai demandé à Léa des conseils pour les personnes qui souhaiteraient s'essayer chez elle à la communication animale.
Bien se faire accompagner et le faire juste pour l'animal en fait. Parce que Sinon, on peut vite partir dans l'ego, de dire ah ben moi, je sais faire ci, je sais faire ça, ou de demander des sommes faramineuses pour le faire. Essayer de dire, ben voilà, moi je l'ai fait avec un éléphant en Thaïlande ou je sais pas. Mais en fait, si on le fait avec un animal et qu'on lui donne pas suite, en fait, c'est très égoïste, je trouve. Pareil avec les animaux sauvages, ça peut être intéressant de le faire. Mais pareil, s'ils nous parlent de choses qu'ils nous demandent d'essayer de régler ou de les aider pour ça et qu'on peut rien faire, bah voilà, on a juste perdu l'occasion de se taire, quoi. Donc. Il faut juste trouver voilà, les bonnes personnes et il faut faire attention aussi à ce qui se dit. C'est vrai qu'il y a, des personnes que j'ai vues qui sont très connues et qui en fait renvoient des dialogues mais incroyables aux gens en faisant vraiment parler l'animal. Et en fait tout ça c'est pas possible quoi. Enfin, ou alors j'ai pas encore trouvé la bonne connexion, mais en ayant discuté avec les formatrices aussi que j'ai eues, tout ça, c'est du pipeau, quoi. Enfin,
ça a ses limites aussi, quoi.
Exactement. Faut faire attention, évidemment, aux charlatans. C'est toujours très dur de prouver. Mais en général, moi, dans les échanges que j'aime bien essayer de trouver des choses présentes dans le présent pour que ça puisse être confirmé, quoi. Après, c'est vrai que c'est pas moi qui choisis, c'est tout le temps l'animal qui m'envoie les infos, mais il y a des choses que, voilà, je préfère mettre pour être sûre que je sois bien connectée déjà au bon animal et qu'on est sur la bonne piste. Ça peut arriver aussi que je me plante ou que moi-même je sois pas dans un super état et que du coup, bah, moi-même, je m'influence. Mais il faut faire attention, prendre du recul et pas hésiter à demander des témoignages, voilà. Animaux et moi, voilà, comme le nom l'indique, ben, c'est moi qui suis un peu entre les deux pour essayer de redonner de l'harmonie entre les propriétaires un peu dépassés et les animaux incompris. Moi, que ce soit par n'importe quel service, en fait, ben, je vais donner du meilleur de moi-même pour le bien-être des animaux. Et que ce soit simplement pour de la garde, ben, y a toujours des bénéfices pour l'animal. On arrive toujours à mieux comprendre l'animal et j'arrive à donner des explications concrètes aux propriétaires pour arriver ben, voilà, à emmener leur animal au mieux de leur forme, au mieux de leur santé psychologique. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont parfois compris. Même si on y donne le meilleur de soi-même, des fois on n'arrive quand même pas à comprendre. Donc voilà, on peut me retrouver sur Facebook à Vos Animaux et Moi, sur mon site internet Vos Animaux et Moi, et sur Instagram en même temps.
Merci d'avoir écouté ce reportage. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur la communication animale. Vous trouverez le contact de Léa sur son site Vos Animaux et Moi dans la barre d'informations. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau reportage sur Fréquence Mistral Avignon.